VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 18h30 en temps universel. Jacques Aristide en votre compagnie. Très content de vous retrouver pour Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique, en direct de Washington. Les titres en ce mardi 24 avril 2018. En RDC, l'opposition a été offensive pour son premier meeting depuis septembre 2016 à Kinshasa. Nouveaux affrontements intercommunautaires au Nigeria, deux prêtres et au moins 16 fidèles assassinés dans une église. L'homme d'affaires français, Vincent Bolloré, en garde à vue pour des soupçons de corruption en Afrique. Le gouvernement israélien annule son plan d'expulsion de migrants africains. À Washington, Emmanuel Macron souhaite travailler avec Donald Trump à un nouvel accord sur le nucléaire iranien. Dans la partie magazine, gros plan sur la polémique autour du rachat de la dette intérieure du Bénin.
Notre pays est arrivé là parce que on ne travaille pas. Et nous sommes dettes non pas pour développer le pays, mais pour acheter des pacotis.
Et puis ne manquez pas vos rendez-vous habituels avec l'économie et les sports dans 10 minutes. En République démocratique du Congo, quelques milliers de militants de l'opposition se sont réunis aujourd'hui dans le calme à Kinshasa à l'occasion du 28e anniversaire du pluripartisme. Il s'agissait de la première réunion publique autorisée par les autorités depuis septembre 2016. Le leader de l'UDPS, Félix Tshisekedi, s'est montré offensif. Sur place, le compte-rendu de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre radio partenaire dans la capitale congolaise.
Je prends acte de votre meeting et vous invite par conséquent à veiller dans le déroulement de votre activité prévue de 11h à 15h au strict respect de la loi régissant les manifestations et réunions publiques dans notre pays. C'est en ces termes que le gouverneur de la ville de Kinshasa a répondu à l'Union pour la démocratie et le progrès social, autorisant de ce fait la tenue du meeting de ce parti ce mardi 24 avril 2018. Une décision qui tombe comme un signe d'apaisement car c'est depuis septembre 2016 que les autorités de la ville de Kinshasa n'avaient plus autorisé de manifestations publiques de l'opposition. En réaction, l'UDPS, organisatrice du meeting à l'occasion de la commémoration de l'introduction il y a 28 ans du multipartisme au Zaïre de Mobutu, promet une forte mobilisation de ses militants et sympathisants dans la discipline, a souligné son porte-parole Augustin Kabuya. Il s'agira de la première grande activité de Félix Tshisekedi depuis son élection comme président de l'UDPS après le décès de son père Étienne Tshisekedi. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Nous reviendrons sur ce meeting de l'UDPS dans la tranche magazine, mais toujours en RD Congo, d'anciens miliciens membres de la rébellion Kamuina Nsapu ont été promus à des postes officiels. Selon une série d'arrêts pris par le gouverneur du Kasaï central, Denis Kambayi, ces nominations ont été critiquées par les militants des droits de l'homme. La région du Kasaï s'est embrasée en septembre 2016. Un mois après la mort du chef traditionnel Jean-Pierre Pandi, alias Kamuina Nsapu, tué lors d'une opération militaire. Les autorités soupçonnent Kamuina Nsapu de tenter de se réorganiser autour d'un chef autoproclamé, Sabanga, responsable présumé de plusieurs attaques ces derniers mois. À Madagascar, les manifestations à l'appel de l'opposition contre les nouvelles lois électorales se poursuivent ce mardi pour la quatrième journée consécutive. Les protestataires durcissent le ton contre le gouvernement et réclament le départ du président Ir Rajonar Mampian. Le point avec Eric Manirakiza.
Réunis sur l'emblématique place du 13 mai, la députée Anitrinian Rassamima Nantsoa a demandé la démission de tout le gouvernement, à commencer par le président Ir Ratsorar Mampian. L'opposition estime que les nouvelles lois électorales visent à la museler avant le premier tour des élections présidentielles et législatives dans 7 mois. Dimanche soir, le chef de l'État a dénoncé une tentative de coup d'État. Il a accusé l'opposition d'inciter la population à l'insurrection et à troubler l'ordre public. La veille, une marche interdite a dégénéré en violent affrontement avec l'armée et la police. Au pouvoir depuis 2013, le président Ratsorar Mampian n'a pas encore annoncé sa candidature pour un second mandat. En revanche, ses deux principaux chefs de l'opposition et anciens présidents, Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, ont déjà manifesté l'intention de se lancer dans la course.
L'emblématique homme d'affaires français Vincent Bolloré a été placé en garde à vue. Le milliardaire et des cadres de son groupe sont entendus dans les locaux de la police anticorruption à Nanterre. Les enquêteurs tentent de déterminer si le groupe Bolloré s'est servi d'une filiale pour décrocher des concessions portuaires en Afrique de l'Ouest. John Linden.
L'homme d'affaires a été entendu dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à Paris qui vise à déterminer si le groupe Bolloré a utilisé ses activités de conseil politique via sa filiale Avas pour obtenir la gestion des ports de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée. Élu président en novembre 2010, Alpha Condé avait résilié le 8 mars 2011 la convention de concession du terminal à conteneurs du port de Conakry, octroyé en 2008 pour une durée de 25 ans à Guetma, une filiale de l'armateur français NCT Necotrans. Le gouvernement guinéen avait confié quelques jours plus tard la gestion du port au groupe Bolloré, déclenchant une bataille judiciaire entre les deux rivaux. Au Togo, en 2011, année de la réélection du président Faure Gnassingbé, le groupe Bolloré a remporté la concession du terminal à conteneurs du port de Lomé pour une durée de 35 ans. Cette décision est contestée par un autre concurrent. Dans un communiqué, le groupe Bolloré a formellement démenti toute irrégularité, affirmant que les prestations relatives à ces facturations ont été réalisées en toute transparence.
Au Nigeria, deux prêtres catholiques et au moins 16 fidèles ont été tués dans l'attaque d'une église attribuée à des éleveurs. L'attaque menée par une trentaine d'hommes armés s'est produite tôt ce mardi matin au cours d'une messe de funérailles dans le village de Mbalom. Le diocèse de Makurdi, capitale de l'état de Benue, a confirmé l'attaque et la mort des prêtres Joseph Gore et Félix Tialoha dans un communiqué condamnant les violences. Les affrontements intercommunautaires se multiplient ces derniers mois dans les états du centre du Nigeria et prennent une tournure identitaire et religieuse. Le gouvernement du président Muhammadu Buhari a déployé l'armée dans plusieurs états pour tenter d'endiguer ces violences. En Israël, le gouvernement annonce ce mardi avoir renoncé à son plan d'expulsion de migrants africains entrés illégalement dans le pays faute d'avoir trouvé un pays acceptant de les accueillir. Les expulsions visaient une partie des 42 000 migrants d'origine érythréenne et soudanaise vivant actuellement illégalement en Israël. Les services du conseiller légal du gouvernement ont informé la Cour suprême de l'abandon du plan après le refus de certains pays tierces non précisés d'accueillir les migrants. Le Rwanda et l'Ouganda avaient été largement cités comme les pays avec lesquels Israël avait négocié pour l'accueil des migrants qui auraient été expulsés.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En visite d'État aux États-Unis, le président français Emmanuel Macron a indiqué ce mardi à Washington qu'il souhaitait travailler avec Donald Trump à un nouvel accord sur le nucléaire iranien sur le long terme. Le président américain est fortement critique de l'actuel texte. Les deux dirigeants viennent de tenir une conférence de presse à la Maison-Blanche où nous retrouvons Nicolas Pinou.
C'est la grande information de cette conférence de presse. Emmanuel Macron qui se dit ouvert à un nouvel accord sur le nucléaire iranien, un accord qui réglerait la question du nucléaire iranien après 2025 puisque l'actuel accord sur le nucléaire iranien expire en 2025, mais le président français qui voudrait également inclure dans un hypothétique nouvel accord le programme balistique iranien et également l'influence iranienne dans la région. On a parlé également de la Syrie, on a parlé commerce entre les deux présidents qui ont affiché leur grande amitié, leur grande complicité. Et c'était l'anecdote de cette conférence de presse, la bise entre Donald Trump et Emmanuel Macron pour nouer vraiment la relation entre les deux pays. Donald Trump qui a remercié la France notamment pour les frappes en Syrie aux côtés des Américains. Nicolas Pineau, Washington, VOA Afrique.
Également dans l'actualité, en Syrie, au moins 18 combattants pro-régime ont été tués en 24 heures dans les affrontements contre le groupe État islamique, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les troupes gouvernementales poursuivent leur opération contre le dernier réduit djihadiste dans le sud de Damas. Pour sa part, l'ONU met en garde contre un nouveau désastre humanitaire en Syrie, à Idleb. Une conférence des donateurs a eu lieu ce mardi à Bruxelles en faveur des 5 millions de Syriens réfugiés dans les pays voisins et des 6,1 millions de déplacés internes Idleb est le nouveau grand défi, d'après l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Mistura. Et puis au Canada, le conducteur de la camionnette qui a fauché des passants hier à Toronto a été présenté ce mardi matin au tribunal. L'attaque a fait 10 morts et 15 blessés. Les yeux baissés, Alec Minassian a écouté les procureurs et énuméré les 10 chefs d'inculpation pour assassinat retenus contre lui. À Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau a appelé la population à ne pas céder à la peur. Les motivations du suspect ne sont pas connues, citant des représentants du gouvernement. Radio-Canada rapporte que l'étudiant de 25 ans n'est lié à aucun groupe extrémiste. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, un résumé de l'actualité économique en Afrique. Il est l'heure de la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
En RDC, la société minière Kibali veut un consensus avec le gouvernement dans l'application du nouveau code minier. La loi a braqué les géants du secteur contre Kinshasa. Cette entreprise majoritairement sud-africaine plaide pour des garanties fiables de stabilité fiscale au bénéfice des investisseurs dans l'industrie à long terme. Promulgué en mars dernier, le code relève les taxes sur les métaux stratégiques, modifie une clause de stabilité de 10 ans et taxe les super-profits des sociétés minières. Le sous-sol congolais regorge d'une abondance de métaux précieux dont l'or, le cuivre, le cobalt, le diamant, l'uranium et la cassitérite. Le groupe français Bolloré veut investir 300 millions d'euros en 2018 sur le continent africain. Il est présent dans 46 pays. Ses activités africaines ont généré 2,5 milliards d'euros l'année passée. Bolloré gère directement les terminaux à conteneurs de 10 ports de la région de Conakry en Guinée, à Pointe-Noire au Congo. En juin 2019, il va construire à Abidjan en Côte d'Ivoire un deuxième terminal portuaire capable d'accueillir les plus grands porte-conteneurs fréquentant les côtes africaines.
Eh bien oui, c'est l'heure d'accueillir Yacouba Ouédraogo pour un tour d'horizon de l'actualité sportive. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques.
Alors Mohamed Salah est de retour à Rome ce soir avec Liverpool et contre son ancien club, la Roma.
Oui Jacques, désigné dimanche meilleur joueur de Premier League, l'attaquant égyptien marche sur l'eau et personne ne le sait mieux que la Roma. Mohamed Salah va tenter d'enterrer son ancien club ce soir en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Liverpool AS Rome, un remake de la finale de 1984. Remporté par les Reds à Rome. On rappelle que Liverpool a éliminé Manchester City en quart de finale et détient la meilleure attaque de la compétition cette saison avec 33 buts dont 8 pour Mo Salah. Il faudra tout de même se méfier au stade olympique de Rome des Italiens qui ont sorti, on le rappelle, le FC Barcelone en cas, coup d'envoi 18h45, temps universel et donc dans deux petites minutes.
En Italie, Yacouba, le poste de sélectionneur a été proposé à Ancelotti.
Carlo Ancelotti a rencontré deux hauts dirigeants de la fédération italienne, Roberto Fabricini et Alessandro Costa Curta, d'après le quotidien Corriere dello Sport. De son côté, Sky Sport Italia affirme qu'Ancelotti s'est vu proposer un contrat de 2 ans. La squadra Azzurra n'a plus de sélectionneur permanent depuis le départ de Gianpiero Ventura, après l'échec historique en éliminatoire du Mondial 2018 en Russie. En barrage face à la Suède en novembre dernier, le technicien italien serait également courtisé par Arsenal et Chelsea, selon la presse sportive d'Italie.
Parlons maintenant de l'Euro 2024, l'Allemagne qui a déposé son dossier de candidature.
Tout à fait Jacques, le président de la Fédération allemande de football, Reinhard Grindel, a remis son dossier de candidature au secrétaire général de l'UEFA, Theodor Theodoridis. Il était accompagné notamment de l'ambassadeur de la candidature allemande pour l'Euro 2024, l'ancien international Philippe Lahm. L'Allemagne n'a plus accueilli l'Euro depuis 1988. La Turquie, l'autre candidate, doit déposer son dossier ce jeudi. Le pays hôte de l'Euro 2024 sera désigné le 27 septembre prochain par le comité exécutif de l'UEFA.
Triste nouvelle maintenant, Yacouba, l'ex-sélectionneur du Cameroun, du Maroc, Henri Michel, est décédé.
Oui Jacques, malheureusement, l'ancien technicien français est décédé à l'âge de 70 ans des suites de maladie. Henri Michel a entraîné pas moins de sept sélections en Afrique, dont la Côte d'Ivoire et le Maroc, qu'il a amené à des Coupes du Monde 2006 pour les éléphants et 1998 pour les Lions de l'Atlas.
Merci bien Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide, toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Retour en République démocratique du Congo. Le parti d'opposition a enfin été autorisé à tenir un rassemblement ce mardi à Kinshasa, le premier depuis l'élection de Félix Tshisekedi à la tête du parti en remplacement de son père Étienne Tshisekedi. La décision du gouvernement est vue comme une certaine décrispation du paysage politique à 8 mois de l'élection présidentielle. Pour un décryptage, Eddie Sango a interviewé un chercheur en politique à l'université de Kinshasa, Martin Ziyakwa.
Pour la majorité au pouvoir, c'est de montrer sa volonté à asseoir la démocratie. Et pour l'UDPS, c'est d'insuffler un nouvel élan au dynamisme de ses partis qui a été déchiré, qui s'est affaibli depuis le décès de son leader maximum, Étienne Tshisekedi. Donc chacune des parties a intérêt de tirer largement profit du symbolisme de la date du 24 avril. Reste à savoir si cette détente politique à laquelle on assiste pourrait donner lieu à une coexistence pacifique entre la majorité au pouvoir et l'UDPS.
Jusqu'à quand ira cette détente politique, parce que elle est liée à la signature d'un accord pour le rapatriement de la dépouille de M. Étienne Tshisekedi, mais dont la date n'est pas déterminée?
Le plus grand enjeu est de savoir si cette détente pourrait donner lieu à une coexistence pacifique entre la majorité au pouvoir et l'UDPS dans un contexte préélectoral quelque peu agité. Quand on connaît les intentions au sein de l'opposition, ceci pourrait constituer pour la majorité une opportunité pour diviser le rassemblement, puisque une alliance politique entre l'UDPS et la majorité irait dans le sens d'affaiblir, sinon de signer carrément la mort du rassemblement, quand on sait que le clan Katumbi a déjà formé sa plateforme électorale et que Félix Tshisekedi ne cache pas non plus son intention de postuler à la haute magistrature. Donc il y a là du symbolisme à travers lequel chacun définit son action stratégique, mais reste à savoir comment ça va se passer et jusqu'où les uns et les autres pourraient tirer profit de ces symbolismes.
Comment voyez-vous ces mariages? Parce que jusque-là, l'UDPS où Félix Tshisekedi a dit qu'il n'était pas preneur des appels des pieds pour devenir Premier ministre.
Je m'interdis d'analyser les déclarations publiques parce que le vrai enjeu politique est du ressort de l'action secrète, mais j'insiste sur le fait que le symbolisme du 24 avril est susceptible d'offrir de gains politiques aussi bien à la majorité au pouvoir qui en profiterait pour non seulement asseoir la détente avec l'UDPS au détriment du renforcement du rassemblement en faveur de Moïse Katumbi, pour ne pas le citer.
On écoutait Martin Ziyakwo, chercheur en politique à l'université de Kinshasa.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous dire de ne pas manquer Le Monde au féminin à 19h05 temps universel ce mardi. Selon un rapport de la Banque mondiale, une femme ne peut pas être chef de famille, notamment en Guinée. Elle ne peut pas travailler sans la permission de son mari au Cameroun, ni ouvrir un compte en banque au Niger sans le même feu vert. Dans cette édition, un petit tour d'horizon des lois discriminatoires basées sur le genre avec Cheryl Bennett, avocate experte en droit commercial. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel sur VOA Afrique. A tout à l'heure.
Je vous le disais un peu plus tôt, le milliardaire breton de 66 ans, Vincent Bolloré, et des cadres de son groupe ont été placés en garde à vue ce mardi à Nanterre sur des soupçons de corruption. Des juges d'instruction tentent de déterminer si le groupe Bolloré a utilisé les activités de conseil politique de sa filiale Havas pour se voir attribuer la gestion des ports de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée via une autre de ses filiales, Bolloré Africa Logistics, anciennement appelée SDV. Le groupe a formellement démenti avoir commis des irrégularités en Afrique. Pour une réaction, Abdourahmane Nadia s'est entretenu avec Thomas Borel, porte-parole de l'association Survie.
Écoutez, on savait que Vincent Bolloré allait être auditionné dans le cadre de l'enquête qui était ouverte sur ces deux ports, hein, le port de Conakry et le port de Lomé, pour, où le groupe Bolloré était suspecté en fait, d'avoir obtenu ces concessions en l'échange d'une sous-facturation de prestations de communication dans la campagne électorale des deux présidents. Par contre, la nouvelle effectivement du jour, c'est qu'il a été placé en garde à vue, et donc ça c'est tout de même une surprise. Même si on pouvait l'espérer, rien ne permettait de s'y attendre à coup sûr.
Donc c'est un peu l'influence politique de l'Empire Bolloré un peu qui revient sur la sellette.
Oui, cette histoire, elle montre, si les soupçons sont avérés, puisque pour l'instant il est présumé innocent, mais cette histoire montre comment des groupes français peuvent, par des réseaux d'influence, d'amitié, d'influence, peuvent finalement obtenir certaines faveurs, certaines concessions de port en l'échange d'autres prestations fournies. Et là, l'enquête en cours, c'est pour corruption d'agents publics étrangers, la corruption étant le soupçon de corruption portant sur la sous-facturation de la communication. En gros, l'agence de communication liée au groupe Bolloré fait la campagne électorale du président Alpha Condé, qui allait devenir président en 2010 en Guinée-Conakry, ou du dictateur Faure Gnassingbé au Togo, en 2010 aussi, et en l'échange, une sorte de retour d'ascenseur, le groupe, par sa filiale logistique, obtient la gestion des ports.
Justement, le groupe Bolloré a réagi à travers un communiqué et a démenti toute illégalité concernant ses activités dans ces deux pays.
Pour l'instant, ce que dit le groupe Bolloré, c'est qu'il n'y a aucune irrégularité dans le dossier. D'ailleurs, la présidence de Guinée-Conakry a également communiqué dans l'après-midi où un membre du gouvernement a dit qu'il n'y avait aucune irrégularité non plus dans la concession du port de Conakry. Évidemment, toute la difficulté, et ça c'est le travail des juges, et surtout avec un nombre oglio réglementaire, c'est de démêler d'une part le vrai du faux, mais de démêler ce qui est légal de l'illégal.
Thomas Borel, porte-parole de l'association Survie, il était en ligne de Paris.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le rachat de la dette intérieure du Bénin avec garantie souveraine, c'est le nouveau dossier qui défraie la chronique à Cotonou. 350 milliards de francs CFA, c'est le montant indicatif de la dette intérieure béninoise. Sur la base d'une note en date du 1er février dernier du ministre de l'Économie et des Finances, l'État aurait délivré à la Société Générale de l'Intermédiation du Bénin, la SGI, un mandat lui donnant plein pouvoir de procéder à la recherche d'investisseurs potentiels pour acheter la dette intérieure bancaire du pays. Les parlementaires béninois cherchent à démêler cette affaire. Pour des explications nécessaires, nous retrouvons notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adande.
Dans le souci de relancer l'économie béninoise à travers l'injection de liquidités et le remboursement à un seul créancier au lieu de plusieurs, l'État béninois envisage le rachat de la dette intérieure bancaire du pays. Si certains spécialistes des questions économiques comprennent la démarche, c'est le montant qui inquiète. Comment l'État béninois s'est-il arrangé pour avoir une dette de 350 milliards de francs CFA? Le député Guimi Tokpe a d'ailleurs relevé quelques points d'ombre.
Le refinancement de notre dette bancaire suit les marchés financiers comporte d'énormes risques. Nous pouvons citer par exemple les fonds vautours qui depuis une décennie font de l'Afrique leur terrain favori. Je voudrais exhorter notre Parlement à prendre des mesures efficaces contre les fonds d'investissement spéculatifs car des pays dont l'économie est plus solide que le nôtre ont fait voter des lois pour mieux encadrer les emprunts souverains ou des actions contre les fonds vautours.
Selon les explications fournies par le ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Bio Tchane, l'opération du rachat partiel de la dette intérieure, comme il est envisagé, vise des dettes contractées à des conditions qui ne sont pas à l'avantage de l'État béninois. Il s'agit donc des dettes héritées en grande partie de la gestion passée, ayant une maturité moyenne de 3 ans avec un taux d'intérêt moyen de 7,2%. 5%. Le gouvernement a donc entrepris de corriger cette situation en refinançant la dette actuelle, c'est-à-dire en contractant de nouvelles dettes à des taux bien plus faibles sur une durée beaucoup plus longue. Les opérateurs économiques espèrent en l'apurement complet de la dette intérieure qui n'est pas en soi une mauvaise chose. Pour Régis Facia, vice-président du Conseil national du patronat, c'est déjà une chance que le Bénin soit dirigé par un opérateur économique.
Aujourd'hui, par un concours de circonstances qu'on va dire heureux, il se fait que celui qui nous gouverne est un chef d'entreprise. Donc il a conscience de l'importance, je dirais, du règlement de la dette intérieure. Donc je pense que c'est un premier signal qui fera, avancer les choses. Dans tous les cas, nous allons continuer à nous battre, à accompagner nos collègues chefs d'entreprise pour que l'ensemble des créances intérieures soient véritablement apurées.
Pour le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané, malgré les difficultés, le gouvernement Talon prévoit des stratégies pour la relance de l'économie qui, malgré tout, reste chancelante.
Au cours des 10 dernières années, nous avons connu une croissance économique moyenne de 4,4%. Mais en même temps, nous avons vu la pauvreté s'accroître dans notre pays. Nous avons, par exemple, sur les 5 prochaines années, l'ambition d'atteindre un taux de croissance d'au moins 7%. Mais en même temps, générer de la croissance dans les domaines, dans les secteurs, mais aussi dans les communautés où nous pourrons générer plus d'emplois et donc réduire la pauvreté par la création de l'emploi.
Aujourd'hui, même si certains Béninois comprennent tant bien que mal le rachat de la dette intérieure, c'est la société à laquelle cette responsabilité est confiée qui dérange, puisque le chef de l'État est un actionnaire majoritaire. Pour certains, il y a conflit d'intérêts. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Cap maintenant sur le Togo, où il est désormais interdit d'importer de tilapia. La décision favorablement accueillie par les Togolais est motivée, selon le gouvernement, par le souci de protéger la pisciculture locale. Pendant ce temps, les importateurs grincent des dents du fait que la mesure n'est pas assortie d'une période moratoire pour leur permettre d'écouler les stocks existants. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lorson.
Le 16 avril dernier, par un arrêté interministériel, le gouvernement togolais a interdit l'importation, la vente et la consommation des tilapia produits dans des pays autres que le Togo. Cette décision, selon le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, vise à protéger le bassin togolais du virus du tilapia lacustre. Dr Ibrahim Bari, le directeur de l'élevage par intérim.
C'est pour protéger nos élevages piscicoles. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le gouvernement est en train de relancer le sous-secteur de la pêche et notamment de la pisciculture. Si ce virus venait à rentrer dans le pays, ça veut dire que les pisciculteurs vont perdre. Parce que quand ce virus rentre dans un bassin, c'est 90 à 100% de mortalité de poissons. Contrairement à ce que les gens racontent un peu partout, ça n'a rien à voir avec la santé publique. En jargon scientifique, on l'appelle une mesure SPS. Les mesures sanitaires et phytosanitaires.
Pour les Togolais, c'est la confusion totale. Ils croient que cette interdiction relève du domaine de la santé publique.
Ils sont fiers de ça parce que la santé avant tout. Donc on doit manger propre et bio. Des fois, les produits importés sont intoxiqués. Ça infecte la population. Donc nous avons préféré de manger les tilapia frais.
Déjà, c'est une bonne chose, mais il faudrait vraiment sensibiliser la population togolaise et leur dire les conséquences qui peuvent découler de la consommation de ces tilapia-là.
C'est une très très bonne décision parce que c'est notre santé qui est prise en compte. Sinon, on a appris comme quoi ces tilapia importés contiennent des éléments qui ne sont pas bonne pour notre santé. Donc.
Nous saluons l'adhésion du gouvernement. Il se soucie de la santé de la population. Ce n'est pas souci sanitaire que moi je ne consomme plus les produits congelés.
Pour Jacques Sivomé, directeur de Hestal Togo et importateur de produits congelés, le gouvernement aurait dû accorder un moratoire.
C'est l'association des importateurs de produits congelés qui a décidé d'arrêter l'importation de tilapia d'une façon provisoire pour soutenir la production locale.
Kay Lawson, Lomé pour VOA Afrique.
Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Gisèle Morissin. C'était Bill Barber à la technique. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée sur VOA Afrique. À très bientôt. Take care.